Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ce soir, je suis plutôt heureux. J'ai retrouvé mon président. Depuis le déclenchement de la crise du Covid, j'avais l'impression de l'avoir un peu perdu, ou plutôt que lui-même s'était perdu et qu'entre ses conseils, comités et autres rassemblements d'experts, il n'y avait plus de pilote. Eh bien non, il a parlé et il a dit non, pas de confinement. En tout cas, pas maintenant. Et de mon point de vue, il a eu raison, parce que ça suffit. Les confinements n'ont pas été décidés parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour les Français ou le pays, mais parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour éviter la saturation de l'hôpital et pour éviter de montrer au grand jour nos carences, manquements et incompétences. Ils ont été encouragés par tous les comités parce qu'aucun ne voulait endosser la responsabilité de ce qui serait arrivé sans confinement. Alors tous ont sorti le parapluie et ont préféré conseiller le maximum de prudence et le maximum de mesures de précaution. La paupérisation de certains n'était ni leur problème ni leur sujet. L'explosion de la dette, les médecins et les scientifiques ne sont pas des économistes et en conséquence ne s'en préoccupent pas. Les faillites et le chômage n'étaient pas leur problème et le président n'avait-il pas dit « quoi qu'il en coûte ». Macron a sans doute sifflé la fin de la partie du « quoi qu'il en coûte ». Et il y a un prix que l'on ne peut dépasser. Tout d'abord, dépenser un argent que l'on n'a pas ne peut que mal finir. Mais c'est un peu comme les bulles, on ne s'en rend compte que quand elles éclatent. Il y a aussi, ou même peut-être avant tout, le prix humain. La distanciation sociale, c'est avant tout le repli sur soi-même. Notre société est basée sur le vivre ensemble parce que nous sommes comme cela. C'est en quelque sorte le développement de la cellule familiale à l'échelle du groupe. Les grands ont besoin des petits des grands. Et à ne plus nous rassembler, nous allons finir par nous diviser encore plus que nous le sommes. Les réseaux sociaux vont jouer à fond leur rôle d'incendiaire. Ils vont propager la division en montant les antiques entre les pros et en mettant la pression sur les neutres pour qu'ils descendent dans l'arène et choisissent leur camp. Se taisent. Anti-quoi et pro-quoi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le conflit et la division. Le prix économique est en train de devenir insupportable. On commence à compter le pourcentage des PGE qui ne seront pas remboursés et on va demander aux banques de passer des provisions petit à petit pour ne pas déstabiliser leur bilan et de traiter avec bienveillance les prêts qui ne pourraient pas être remboursés afin que les demandes de garantie ne remontent à l'État que doucement. Un peu chaque année, pour éviter de faire trop et que cela se voit comme une mouche sur un drap blanc. La mise sous bulle de l'économie du tourisme, de la restauration et de l'événementiel laisse penser que les choses ne vont pas si mal entre le chômage partiel, la prise en charge partielle des loyers et quelques aides ciblées, a fait que 2020 a été l'année, contre toute attente, avec le moins de faillites de restaurants ou d'hôtels depuis bien longtemps. Croire que la méthode fonctionne est une folie. Dès la réouverture et la fin des aides, les problèmes vont ressurgir à une vitesse folle, et les fermetures vont s'enchaîner, sauf à accompagner le redémarrage sur une période longue. Et on a premièrement plus de sous, et secondement, nous ne sommes une économie libérale, et nos entreprises ont besoin d'être rentables pour exister. Voilà pourquoi je pense que le patron a bien fait de reprendre les choses en main et de se comporter comme un chef en prenant une décision qui va à l'encontre de la politique du parapluie. Il a repris ses thèmes de l'agilité et de la mobilité qu'il évoquait déjà lors de sa campagne. Il navigue à vue et il a raison. Les instruments que nous avons à notre disposition ne sont pas assez fiables pour planifier. Il devrait d'ailleurs peut-être un peu reprendre des choses au niveau des vaccins. Le fait d'avoir laissé les fonctionnaires européens gérer les commandes a été catastrophique, un peu comme quand l'approvisionnement des masques avait été laissé à l'administration française. En fait, il faudrait juste expliquer à nos fonctionnaires que le libéralisme s'est installé partout et que le business n'obéit pas aux règles de l'administration, sauf peut-être en Chine. Même si la méthode ne devait pas fonctionner et qu'il faille reconfiner dans quelques jours ou dans quelques semaines, il aura bien fait d'avoir essayé. Et sur ce point-là, il a tout mon soutien. Pendant ce temps-là, et cette nouvelle, on ne pouvait pas passer à côté quand on présente une émission s'adressant aux francophones de métropole et du Portugal. Ségolène Royal veut se présenter aux prochaines élections sénatoriales. Comme représentante des Français de l'étranger, et le numéro 2 de la liste n'est autre qu'un Français professeur d'économie émigré au Portugal. Que dire et qu'en penser? Ma première réaction est de me dire que le propre d'une démocratie est que toute personne pensant pouvoir apporter sa pierre à l'édifice peut se présenter devant les électeurs qui jugeront et décideront. Ma seconde réflexion est de me dire, mais que vient-elle faire ici? Quelle est sa légitimité, son ambition? Et en y réfléchissant bien, je me dis qu'elle ne sait faire rien d'autre que de la politique. Il y a 68 ans, elle n'a pas envie de prendre sa retraite, qu'une paye en plus lui ferait du bien, comme à nous tous d'ailleurs, et que les politiques sont un peu comme les artistes, ils ont besoin de leur public pour vivre et pour exister. Leurs scènes sont les lieux de pouvoir et les médias, leurs arènes, les élections. Elle va articuler sa campagne autour d'une liste citoyenne qui transcende les clivages droite-gauche. Là, c'est du vrai Ségolène. Elle nous prend pour des jambons de première catégorie. Elle a été toute sa vie à gauche. Elle a même incarné la gauche à un moment, même si elle fait partie des moins dogmatiques, j'en conviens. Elle affirme que si elle devait être élue, elle rejoindrait le groupe socialiste au Sénat. Elle prend comme numéro 2 un socialiste affirmé que je salue, qui prétend que la liste est ancrée à gauche, et comme c'est pratiquement impossible que la liste ait plus que 2 élus, la fin de l'histoire sera 0-1 ou 2 sénateurs socialistes au palais du Luxembourg. C'est ça la liste citoyenne qui transcende les partis, sacré Ségolène. C'est donc une liste socialiste dissidente qui veut faire croire à une liste citoyenne. Le plus drôle est que le numéro 2 de la liste n'a pas cessé de critiquer la liste citoyenne du Portugal pour les élections consulaires. Pour rappel, ce sont les conseillers consulaires qui élisent les sénateurs de l'étranger. Heureusement que le ridicule ne tue pas, nous aurions à déplorer quelques morts de plus, et il y en a déjà bien assez, et même de trop. En revanche, et je terminerai là-dessus, pour celles et ceux qui sont concernés, allez voter. Sinon, ce sera grâce ou à cause de vous. Et c'est maintenant le tour de David Calfon de Sens OIS pour son traditionnel point marché. Bonsoir David.
Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique des marchés financiers. On vous avait dit que l'année 2021 ne serait pas en ligne droite. Eh bien, on ne vous avait pas menti. Après un optimisme béat fin décembre et début janvier, les marchés ont cédé au pessimisme avec un retour à la dure réalité et une prise de conscience que finalement, cette sortie